Alors, dans la Bible, je vous propose de parler du livre des Actes, le livre des Actes qui raconte l'essor de la foi chrétienne à partir de Jérusalem. Et c'est là que se déroule ce que nous allons lire à présent, au chapitre 4, à partir du verset 32. Le texte sera projeté, mais si vous voulez suivre dans votre Bible, vous pouvez le faire. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite, c'est-à-dire un prêtre, originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, avec sa femme, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. De jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute. Ceux qui viennent enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée au pied de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Alors je vais faire une remarque sur ce texte et puis proposer trois prolongements. Pour ce matin, pour ce texte, on peut commenter diversement. Je vous retiens juste que ce que je qualifierais de manière à peu près approximative, quand même, une double trajectoire. Deux trajectoires opposées. Celle de Joseph, appelé Barnabas, d'une part, et d'autre part, celle d'Ananias et de Saphira. Alors on saisit d'emblée, je pense, ce qui se passe dans l'attitude d'Ananias et Saphira. Leur trajectoire, si j'emploie ce mot, passe de l'adhésion à la foi chrétienne, la croyance en Jésus comme Messie, à un comportement qui n'est pas compatible avec elle. Et on comprend évidemment que c'est l'exemple négatif, que c'est le contre-exemple, l'attitude qui n'est pas du tout exemplaire. Ils essaient de faire semblant, ils essaient de paraître, de faire croire qu'ils se dévouent, qu'ils se dépouillent, Et en fait, il ne se dépouille pas, pas d'eux-mêmes en tout cas. On ne saisit peut-être pas si vite un aspect probable de la trajectoire de Barnabas, à propos de qui le texte donne davantage d'informations. On lit qu'il est originaire de Chypre et surtout qu'il était lévite et qu'il possédait un terrain. Et peut-être là, il y a quelque chose à entendre, parce que les lévites, les prêtres, dans le judaïsme, en tout cas dans la législation juive, n'avaient justement pas le droit de posséder de terrain. Il était prévu, en fait, qu'il n'ait pas de... Alors, il y a deux textes que je ne vais pas lire, mais de l'Ancien Testament, deux textes qui indiquent qu'il était prévu qu'il n'ait pas de terrain, mais qu'il dépende des dons des autres tribus. D'où, si on lit le texte comme ça, on peut se dire, mais du coup, il y a un décalage initial chez Barnabas. Et du coup, comme une espèce de trajectoire inverse. C'est comme s'il partait d'un écart pour arriver à quelque chose de mieux. D'une distance par rapport à la consigne divine, par rapport à l'alignement sur cette volonté. Et pour lui, en tout cas, un dépouillement physique, la vente de ses biens, correspond à un dépouillement de soi. Donc une adhésion de plus en plus entière à la foi chrétienne. C'était la remarque que je voulais proposer au départ. À partir de là, je nous invite à entendre trois choses et je reviens chacune de ces deux trajectoires. L'exemple de Joseph, je crois qu'il illustre bien le surnom qu'on lui donne, l'homme qui encourage. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ressentir ça. Parce que je crois que tous, dans notre propre histoire, qui que nous soyons, nous pouvons témoigner de ça. Quand nous voyons des personnes qui donnent de plein cœur, le plus souvent, nous sommes dans le respect, simplement. Et nous sommes dans le respect quand nous voyons des personnes qui se donnent. On regrette peut-être parfois qu'elles se donnent à une cause qui n'est pas la nôtre, mais d'accord, j'entends bien. Et nous sommes dans le respect et peut-être même dans l'admiration, peut-être aussi même dans l'envie parfois, quand nous voyons des personnes qui changent et qui changent positivement. Quand nous voyons des personnes qui tournent le dos à des comportements que nous estimons destructeurs, à des modes de vie qui sont destructeurs, destructeurs pour eux, destructeurs pour leur entourage, destructeurs pour les relations, et quand nous voyons ces personnes s'efforcer de s'amender, de contribuer à la vie de leur communauté, de leur voisinage, de leur lotissement, quand nous les voyons changer ER, et quand nous les voyons changer EES. Ces personnes que nous avons connues sombres, hautaines, supérieures, provocateurs, je m'en foutiste, brûlant même la vie par les deux bouts, tête brûlée, ou bien tournés sur eux-mêmes, méprisant, dédaigneux, soucieux peut-être principalement de leur carrière, de monter dans la hiérarchie, dans l'échelle sociale, dans la réalisation de soi, comme s'ils avaient un peu une liste. Bon, ben voilà, alors, le boulot, c'est fait, check. Le mariage, c'est fait, check. La belle maison, c'est fait, check. Et puis, on continue à cocher les cases, comme ça. Et c'est pas tellement ça qui est... C'est le fait que toute leur énergie est là. Et ils ne sont pas disponibles pour le reste, hein, ça ne les intéresse pas. On a l'impression que ça ne les intéresse pas. Et tout à coup, et on ne sait pas pourquoi, les voici qui changent de direction. Je pense à une amie avec qui j'ai fait mes études il y a très 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 longtemps, au millénaire dernier, puisque c'est bien ça, qui me parlait de sa sœur qui avait une carrière de trader, enfin, à la bourse, quoi, en Angleterre. Et qui, à l'âge de 50 ans, qui vivait vraiment pour ça, et qui, à l'âge de 54 ans, on ne sait même pas trop pourquoi elle-même, tout d'un coup, a changé. S'est donné, s'est engagé dans des associations caritatives. A complètement réorienté ses valeurs. Comme si ce qu'elle vivait lui donnait pas goût à la vie. Donc voilà des personnes qui, on ne sait pas pourquoi, tout à coup, changent de direction. Les voilà qui nous demandent, et ça peut être très simple, elles nous demandent, et toi, comment tu vas? Ce qu'elles n'avaient jamais fait dans la conversation jusque-là, ou si peu. Et plus encore, c'est qu'elles posent la question et elles semblent vraiment s'en préoccuper. Les voici qui s'engagent dans des associations. Les voici qui se mettent à donner dans ces associations, financièrement. Et plus encore, les voici qui commencent à se donner. Et si bien que ceux qui observent ça, peut-être d'abord avec un certain scepticisme, en disant « ouais, c'est bien mignon, mais ça ne va pas durer, on la connaît. Hein. » Et puis, au fur et à mesure que le temps passe et que ça se confirme, c'est avec de plus en plus de confiance, ça se confirme. Et ceux qui observent en arrivent petit à petit à croire, tout à coup, à espérer que finalement, il n'était pas si pourri que ça. Finalement, ça peut même être plus grave, hein. Finalement, les hommes sont peut-être pas si pourris que ça. Ou les femmes sont peut-être pas si pourries que ça. Parce qu'il y a des personnes qui changent tout à coup. Et nous voilà à espérer que ce qui se présentait comme une impasse, eh bien, tout à coup, s'ouvre. Nous voilà comme stimulés pour le croire. Et nous voilà presque admiratifs. Et c'est plus que ça aussi, parce que nous voilà presque comme conviés, emportés par cet élan-là. Portés à les imiter, à désirer leur ressembler un peu. Parce qu'on sent bien que nous aussi, c'est pas terrible, sur tous les plans de notre histoire. Car les voir, ça fait du bien et ça donne de l'élan. En résumé, les bons exemples sont bienfaisants. Bienfaisants. Et il y a un phénomène d'entraînement, il y a un phénomène d'émulation. Et sans doute aussi, en même temps, tant et si bien que ça peut nous faire peur aussi. Mais là se fait entendre, au travers de ces personnes, ce que j'ai envie d'appeler l'appel du bien. Et l'appel du bien ne nous laisse pas indifférents. Même si nous ne parvenons pas à emboîter le pas, même si on ferme la porte très vite pour pas trop l'entendre, cet appel du bien, il y a une contagion du bien. Et ça se fait au travers de choses toutes simples. Par exemple, tout à l'heure, après le repas en commun, prendre le balai pour contribuer à passer un petit coup de balai dans la salle, par exemple. Et plus que ça, et avec tout ça, je crois qu'on se sent parfois comme honoré, comme élevé de pouvoir côtoyer de telles personnes. Ou le moment où la personne bouge, bascule, où on la voit changer. Je pense à un ami, je fais une parenthèse que je n'ai pas prévue, mais je pense à un ami avec qui la relation a été violente, difficile. C'était lui qui était violent, mais pas moi, non. Physiquement, en l'occurrence, c'était vrai, mais après le reste, on peut en discuter. Mais il y avait eu la violence physique, et du coup, on a peur. Mais j'ai bougé, parce que j'ai vu Dieu le transformer. Je ne peux pas le dire autrement. C'était même pas que je désirais lui pardonner ou quoi que ce soit. C'était même pas, je ne sais pas si j'avais ce désir ou non. Mais j'ai vu son comportement changer. Il y a quelque chose qui ne peut pas rester indifférent, ça, pour moi en tout cas. Donc on se sent comme honoré, comme élevé de pouvoir côtoyer de telles personnes. Ce qui se voit là, j'ai envie de dire, est inspirant. Et dans notre récit, je crois qu'on est porté même à penser que ce qui se passe là est inspiré. Je dis porté à penser, mais c'est plus que ça, c'est un euphémisme. La grâce de Dieu, dit le texte, agissait avec force en eux tous. Et puis, je pense au verset qui précède ce passage, que j'ai pas lu, mais que je lis maintenant. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, ils disaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc, action de la grâce de Dieu, action de l'Esprit. Et du coup, frères et sœurs, que l'Esprit nous habite, nous rejoigne. Frères et sœurs, et je dis, et amis, vous qui êtes là, peut-être extérieurs et observateurs, bienvenue. Mais je ferme le même vœu, la même prière, que l'Esprit nous habite, nous rejoigne, de façon analogue. Barnabas. Deuxième remarque, la contagion, nous le voyons dans le texte, là elle est vers le haut, et elle opère aussi, elle peut opérer aussi, dans l'autre sens. La désobéissance est contagieuse. Et là encore, je ne parle pas spécifiquement comme un chrétien qui s'adresse à des chrétiens avec des exemples chrétiens, mais c'est, je pense, notre expérience à tous. Je suis quelque part, je vois des fraudeurs, je vois des tricheurs, et il n'y a personne pour contrôler. Et ils semblent en profiter. Et peut-être que je risque de m'avouer à moi-même quand même que, ben oui, je les envie. Et puis, j'ai envie de faire comme eux. Et puis, au fond, pourquoi pas faire, quoi? Tout le monde double sur la file de gauche. Pourquoi pas moi, après tout? Pourquoi ne pas en profiter, moi aussi? Ça va plus vite. Et parfois, c'est juste ce que j'appellerais la pesanteur, la contagion sociale. Alors, c'est pas à vous que je pose la question. Si, c'est à vous que je pose. Mais qui va encore à l'église aujourd'hui, franchement? C'est tellement plus facile, c'est tellement plus fun d'être sur son canapé, de visionner une série, que de devoir s'habiller. Comme un lundi, mais c'est dimanche. Sortir la voiture, il fait froid. Il y a des loups. Je force le trait, quoique, il faut reconnaître ou non, c'est votre problème. C'est chacun. Et on peut même rationaliser ça, en être très fier et se dire que bon, quand même, on est chrétien, mais on n'est pas soumis à des règles rigides, quand même. On est au-dessus des règles rigides. On va à l'église, oui, mais bon, on n'est pas des forcenés non plus. On n'est pas légaliste, c'est mal d'être légaliste. Et on se sent même parfois, enfin certains se sentiront même parfois, un peu supérieur de penser comme ça. Un chrétien plus. Je suis chrétien, mais je ne suis pas raide, quoi. Je reste un peu dans la caricature, hein, en mettant des extrêmes. Mais il arrive aussi qu'en fonctionnant comme ça, des personnes qui peuvent venir en curieux dans une église et qui aimeraient peut-être voir des personnes qui sont porteuses d'une foi vivante, ben voient un certain nombre de chaises vides et se disent que bon, après tout, il n'y a pas grand monde qui croit aujourd'hui. Et puis, il y a aussi les chaises pleines. Ceux qui s'investissent se voient petit à petit un peu usés, un peu lassés d'être des locomotives, de devoir être la locomotive, et tenter de faire jouer la critique. J'ai un petit peu tout seul à tirer. L'Église est composée de... Je ne mets pas de... Voilà. Et c'est avec cet inconvénient aussi que cette critique a aussi l'effet de plomber un peu le moral et l'ambiance. Et du coup, quand on entend des personnes dire, enfin, les prononcer, mais on n'a pas envie de s'investir parce que c'est fatigant, quoi. Et puis, et quand des personnes aussi aimeraient pouvoir s'investir davantage, mais qu'elles n'y arrivent juste pas, parce qu'elles ont une vie affolante, et quand elles entendent ce diagnostic, bah bon, les bras leur tombent un petit peu. Donc, spirale un petit peu vers le... Plus largement, je résume, les mauvais exemples, si je peux employer ce langage, nous découragent. Et le découragement, c'est communicatif. Et souvent, j'en sais rien, parfois plus communicatif que les encouragements. Mais je reviens un petit peu au texte, et de façon générale, à notre histoire, c'est décourageant de voir que les méchants réussissent mieux. Que les méchants ne sont pas punis, ou ne sont pas arrêtés, sanctionnés, qu'ils semblent un petit peu intouchables. Dans le cadre ecclésial, puisque ça arrive aussi dans le cadre ecclésial, de voir des scandales sexuels, ça frappe pas mal le catholicisme en ce moment, on en parle beaucoup, des scandales financiers, je parle du catholicisme, mais j'ai pas oublié que les pasteurs font les mêmes choses, hein, ou il leur arrive de faire les mêmes choses, j'espère qu'ils font pas ces mêmes choses, voilà que c'est plutôt des exceptions, mais ça arrive. Qu'il y ait des scandales sexuels, des scandales financiers, Et ces gens qui ont le pouvoir et qu'on ne peut pas dénoncer, parce qu'ils ont le pouvoir, et ça peut jouer, ça se passe aussi en Église, qui semblent comme fiers, ou qui, après que le masque est tombé, se cherchent encore des excuses. C'était le diable, c'est pas moi. Ok. Mais je crois que ce qui se passe aussi au travers de tout ça, donc je suis à des exemples graves, mais voilà, c'est aussi un peu caricatural, mais ça affecte la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres, qu'on peut avoir dans l'Église, qu'on peut avoir dans la famille, s'il y a des choses comme ça qui se passent dans la famille. Et ça décourage de voir que des personnes qui avaient si bien commencé, qui présentaient si bien, de qui on avait une si belle image, et qui tout à coup, c'est le côté obscur de la force, s'avère bien plus sombre. Ça plombe un peu le moral, la motivation. Et je rajoute un commentaire qui revient assez directement sur le texte. D'ailleurs, le fait d'agir mal, sans qu'il y ait de choc en retour, ça contribue à aider à se croire intouchable et à continuer. Et dans le présent récit, la tromperie se fait à deux. Un couple qui considère que les biens qu'ils ont vont leur permettre de paraître. Et extérieurement, c'est « regardez comme je suis généreux. Je suis le mécène, je suis le bienfaiteur. Il y a un problème, je m'en occupe. » Alors qu'en fait, l'enjeu, c'est « admirez-moi, moi qui suis tellement généreux. » Et on est dégoûté quand la vraie motivation vient à la lumière. Et j'en arrive à ce que je voulais dire. Et heureusement, si je puis dire, heureusement ici devant ce mauvais exemple, concerté, pour le coup, Dieu fait un exemple. Alors vous me direz, si vous entendiez ce texte pour les premières fois sans doute, vous aurez pu vous étonner de la violence de Dieu ici, et oui, elle est présente, ça paraît disproportionné, Dieu aurait quand même pu être un petit peu plus soft, on se dit, et j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire, enfin, je ne peux pas m'empêcher de me dire que quelque part, c'est bien fait. Ne serait-ce que pour limiter la contamination. Et j'entends ces mots, c'est bien fait, ne les entendez pas au sens propre, pas un titre revanchard. C'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour leur gueule. Voilà, ils n'avaient qu'à pas pécher. Mais c'est plutôt ici, même si ça reste extrêmement violent, ici les choses ont été bien faites. Parce que parfois, quand il n'y a pas des choses comme ça, mais le mal continue et s'enracine, et puis un certain nombre de personnes le reproduisent, mais personne m'empêche de voler, mais je continue à voler. Personne me dit quand je suis violent avec les autres, mais attends, il y a la violence qui est là. Calme, ça va pas. Personne me le dit, ben j'y vais. Donc, je rassemble maintenant les deux choses. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre, il l'est, n'empêche pas qu'il y ait aussi des attitudes décourageantes. Et même si Dieu n'intervenait pas aujourd'hui, comme il le fait ici dans ce texte, eh bien que l'Esprit nous donne de vivre dans la crainte du Seigneur, quand même. Dernière chose, et je reprends du coup les deux pôles. L'auteur des Actes met côte à côte ces deux trajectoires dans le récit. Et ça fait contraste. Et le contraste, en fait, il est d'autant plus vif, et on tombe d'autant plus de haut quand on lit le récit d'Ananias et de Saphira, que jusque-là dans le texte, si vous êtes familier des chapitres qui précèdent, jusque-là, ça se passait très très bien. Enfin, c'était exemplaire, ça se passait très bien. Bon, les croyants étaient persécutés quand même, donc c'était pas cool, confortable. Mais jusque-là, les comportements qui nous étaient décrits de la part des croyants étaient exemplaires. Exemplaires ces premiers chrétiens, exemplaires cette première église. Cette première église d'ailleurs si exemplaire qu'il nous arrive parfois de fantasmer à être nous aussi, on aimerait être comme la première église exactement pareil. Et il nous arrive de rêver de la rétablir. Eh bien, lire ce récit nous fait toucher du doigt que ces premiers chrétiens, que nous idéalisons parfois, eh bien, n'étaient pas forcément meilleurs que nous. Il y avait des exemples admirables, des exemples bouleversants, et puis il y avait des exemples moins nobles. Côte à côte, sur le même banc, il y avait Barnabas, qui évolue dans le bon sens, celui qu'on admire, qui encourage. Et puis il y avait aussi, sur le même banc ou à côté, Ananias et Saphira, qui s'orientent eux un petit peu dans l'autre direction, côte à côte. Il n'y a plus de nom projeté derrière, parce que nous pourrions mettre aussi nos prénoms. Nous sommes assis, enfin vous êtes assis pour la plupart d'entre vous, moi je suis debout pour le moment, mais nous sommes assis côte à côte, les uns à côté des autres. Il y a parmi nous ceux dont la trajectoire les amène de plus en plus à se soucier de Dieu, des autres, peut-être pour certains d'entre nous du sens qu'ils veulent donner à leur vie, fait qu'ils cherchent à leur vie, qui ressentent l'appel du bien, peut-être, sans même pouvoir dire Dieu et le bien, c'est la même chose, voilà, mais qui sont appelés. Et puis il y a ceux parmi nous aussi qui petit à petit s'écartent, qui cherchent à profiter, à se faire valoir, peut-être. Et extérieurement, nos comportements sont identiques, les deux comportements peuvent être identiques. Dans le récit, eh bien, une somme d'argent a été mise au pied des apôtres. On pourrait dire, il n'y a plus de pied des apôtres, voilà, il y a la boîte de l'offrande. Et puis, ça peut être extérieurement les mêmes mots, nous avons vendu nos biens. Et ça peut être aujourd'hui deux chrétiens qui louent avec les mêmes mots, nous voulons vivre l'unité, on chante tous ensemble. Qui prononcent les bonnes paroles, les mêmes paroles. Et en fait, il peut y avoir un chrétien quelqu'un qui loue Dieu et quelqu'un qui joue aux chrétiens, qui joue aux bons chrétiens, aux très bons chrétiens. Je ne sais pas. Voilà. Et c'est nous seuls qui savons où nous sommes. Je dis juste que nous sommes encore les uns à côté des autres, assis. Aujourd'hui. Et je sais qu'ordinairement, en tout cas pour autant que je puisse en juger, Dieu ne frappe pas comme il l'a fait dans le texte. Ce qui fait que peut-être que la situation est un peu plus brouillée encore pour nous. Mais j'insiste, je m'arrête là, en terminant en disant que l'un, pour les uns comme pour les autres, dans le récit, il s'agit de trajectoires. Et les trajectoires peuvent prendre du temps. Et les trajectoires peuvent évoluer. On est parti sur certaines trajectoires, elles sont réorientables, au moins un peu. Elles peuvent se corriger, elles peuvent se réaménager. Il y a des façons de vivre, il y a des façons de parler qui peuvent, ou qui peuvent encore, changer. Dans la lettre aux Hébreux, un extrait, l'invitation est faite en ces termes-là, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, et si vous allez dans une mauvaise direction, ne vous obstinez pas. Aujourd'hui, si nous entendons la voix du bon berger, du Christ, décidons, continuons de lui emboîter le pas. Et je prie simplement que l'Esprit nous porte dans la crainte de Dieu.